Bah, il y a cette expérience. Enfin, c'est presque un rite de passage dans le monde du travail.
Ah ouais, je vois très bien où tu veux en venir.
Ouais, on s'est tous retrouvés un jour face à un vieux PDF, tu sais, le genre de document scanné un peu de travers.
Avec les traces de café sur les bords, la résolution horrible.
Exactement. Et là, on essaye innocemment de copier un tableau pour le coller dans un tableur. Et bah, c'est le drame absolu.
Les colonnes qui fusionnent, tout le texte qui se décale.
Voilà, les chiffres se mélangent avec les entêtes, tout disparaît. Et au final, qu'est-ce qu'on fait?
On soupire et on retape tout à la main.
À la main, cellule par cellule, c'est une friction monumentale, un vrai cauchemar bureaucratique qui dévore un temps infini dans toutes les entreprises du monde.
C'est clair, et c'est exactement le cœur de ce qu'on va explorer aujourd'hui. Parce que c'est un problème qui paraît si simple en surface, mais qui est sur le plan informatique d'une complexité folle.
Ouais, réussir à faire comprendre à une machine non pas seulement ce qui est écrit, mais comment c'est organisé dans l'espace.
Tout à fait.
Et franchement, on nous promet la fin de la paperasse depuis quoi, 10 ou 15 ans?
Au moins, ouais.
Pourtant, on y est toujours. Mais bon, décortiquons tout ça parce qu'aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse hyper fascinante. C'est un papier publié très récemment, en juillet 2026, par Valentin Charrier chez OCAD Fusion. Et ses travaux décortiquent une nouveauté qui fait énormément de bruit.
Mistral OCR4.
Voilà, sorti le 23 juin dernier. Et la promesse de ce modèle, c'est justement de prendre cette bouillie numérique dont on parlait et de la transformer en données parfaitement structurées.
Des données prêtes à être automatisées, ouais.
Sauf que, en tant qu'animatrice de cette émission, je me dois d'être un peu sceptique. Est-ce qu'on est vraiment à l'aube d'une révolution pour nos factures et nos contrats, ou est-ce que c'est, tu sais, juste une énième mise à jour incrémentale?
Ouais, c'est la bonne question. Mais pour bien saisir l'ampleur de ce qui se joue avec cette version, il faut d'abord prendre un peu de recul sur le rythme de ces développements.
Parce que ça va vite, très vite.
C'est fulgurant. On parle quand même de la quatrième génération du modèle d'extraction de Mistral, donc l'éditeur parisien, en l'espace d'à peine 15 mois.
15 mois, attends, 4 générations en un peu plus d'un an.
Ouais. Leur tout premier essai dans la reconnaissance optique de caractère, le fameux OCR, ça date seulement de mars 2025.
C'est vertigineux, franchement.
Vertigineux, et surtout, l'ambition affichée n'est plus du tout la même aujourd'hui.
Comment ça?
Bah, historiquement, un système OCR classique, ça se contentait de lire des lettres, c'est-à-dire qu'identifier des pixels noirs sur un fond blanc et il disait « Ok, ça c'est un A, ça c'est un 4. Point barre.
Une simple reconnaissance visuelle, quoi.
Voilà. Mais le but de Mistral OCR4, ce n'est plus juste lire, c'est de comprendre la structure sémantique et spatiale du document.
Ok, donc le contexte.
Exactement. Le but ultime, c'est d'alimenter directement des systèmes très complexes, genre des agents virtuels autonomes. Ces agents ont besoin de savoir quelle est la fonction de chaque texte.
Ah, genre, est-ce que cette ligne, c'est un sous-titre ou est-ce que c'est le montant total à payer?
C'est ça. Ou est-ce que c'est une petite clause de non-responsabilité cachée tout en bas de la page en police de taille 6?
D'accord, je vois. Mais pour comprendre pourquoi cette version 4 fait couler autant d'encre par rapport à la version 3 qui date seulement de décembre dernier, hein, il faut qu'on regarde ce qui sort concrètement de la machine.
Les vraies nouveautés.
Ouah. L'analyse qu'on a sous les yeux montre que ce modèle digère à peu près tout, évidemment les PDF, mais aussi les images classiques, genre PNG, JPEG, et même les formats plus modernes, comme l'AVIF.
Et le truc très pratique, c'est qu'il prend aussi les fichiers bureautiques natifs.
Ah oui, les fichiers Word, PowerPoint, Open Document directement.
Tout à fait. Et côté linguistique, on est sur aspect extrêmement large. On parle de 170 langues couvertes.
170. Fou, c'est énorme.
Ouais. Et avec des gains de performance notables sur des écritures qui sont historiquement hyper complexes à traiter numériquement.
Genre lesquels?
Le hindi, le bengali, l'arménien, le tamoul, des alphabets qui donnent des sueurs froides aux anciens OCR.
C'est super impressionnant, mais c'est pas vraiment ça qui change la donne, si, hein. Enfin, de ce que je comprends, ce qui marque vraiment la rupture, ce sont trois nouveautés très spécifiques.
Exactement.
Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle les bounding boxes, donc les coordonnées spatiales exactes de chaque bloc de texte.
Ouais, la géographie de la page.
C'est ça. Deuxièmement, une classification super précise des éléments. Donc la machine fait vraiment la différence entre un titre, un tableau, une équation mathématique ou une simple signature. Et troisièmement, et ça c'est crucial, un score de confiance attribué à chaque mot individuellement.
Oui, on va y revenir parce que ça, c'est majeur.
C'est clair. Et le tout est renvoyé via un point d'API unique en format JSON avec du markdown tout propre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. J'aimerais bien utiliser une image pour ceux qui nous écoutent.
Vas-y, je t'écoute.
Les anciens OCR, c'était un peu comme recevoir un meuble en kit, mais sans le plan de montage et avec toutes les vis complètement mélangées dans un sac.
Ah oui, l'angoisse.
Tu as toutes les pièces, tu as tout le texte, mais franchement, bon courage pour reconstruire la facture d'origine. Alors que Mistral OCR 4, c'est comme recevoir ce même meuble, mais avec un plan de montage millimétré. Chaque pièce numérotée et une petite étiquette qui te dit explicitement ceci est le pied gauche, ceci est le plateau.
Mais c'est une excellente métaphore, ouais. Et ça explique précisément pourquoi cette sortie structurée, ce plan de montage, élimine un nombre incalculable d'étapes intermédiaires pour les développeurs.
Bah oui, parce qu'avant, il fallait bricoler, non?
Ah, c'était l'enfer. Pour passer d'un texte brut à une info exploitable, il fallait coder des scripts hyper complexes, pleins de règles super fragiles, juste pour deviner où commençait un paragraphe et où finissait un tableau.
Genre, si tu vois le mot total, prends les chiffres à droite.
Voilà, et si la facture change un peu de format, tout ton script plante. Avec cette nouvelle géographie de la page cartographiée par Mistral, cette friction disparaît complètement.
Et ça, j'imagine que ça a un impact direct sur ce qu'on appelle les pipelines RAG, non? La génération augmentée par la recherche.
Totalement. C'est vraiment là que le potentiel se libère. Pour situer, le RAG permet à une IA de répondre à des questions en allant fouiller dans une base de documents interne à l'entreprise.
Au lieu d'utiliser juste ses connaissances générales.
C'est ça. Mais le gros problème classique du RAG, c'est l'hallucination ou le manque de traçabilité. L'IA lit un gros bloc de texte, elle te donne une réponse, mais elle est incapable de te prouver d'où elle sort cette info.
Ah, alors qu'avec ces fameuses bounding box, c'est la classification.
Exactement. L'IA ne se contente plus de formuler une réponse dans le vide. Elle peut te dire « voici la réponse » et je l'ai trouvée précisément dans le document numéro 42, à la page 3, dans le tableau en haut à droite, à la cellule C4.
Oh waouh ! Donc elle fournit une vraie citation, avec une coordonnée visuelle.
Oui. Et ça, c'est un gain de fiabilité massif. Imagine un service juridique ou un service comptable, ils ont besoin de vérifier la source d'une info en une fraction de seconde. Pas de relire tout le document.
C'est sûr. Bon, avoir cette carte intelligente, ce plan de montage ultra précis, en théorie, c'est fascinant. Mais plongeons un peu dans la réalité brute des entreprises. Comment on fait pour automatiser un vrai processus financier sans risquer le désastre?
C'est la vraie question.
Bah oui, imagine, on automatise le paiement des factures fournisseurs. Si le modèle lit un 8 au lieu d'un 3 sur un montant de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
C'est la catastrophe industrielle, clairement.
Alors, comment on gère ce risque au quotidien?
Eh bien, c'est ici qu'intervient la troisième grande nouveauté dont tu parlais tout à l'heure. Le fameux score de confiance par mot. C'est l'élément clé qui permet de mettre en place ce qu'on appelle le confidence gating.
Le confidence gating, qu'on pourrait traduire par un filtrage basé sur la confiance?
C'est exactement ça. Concrètement, l'analyse d'Octa de Fusion démontre que cette logique s'intègre parfaitement avec des outils d'automatisation comme N8N.
N8N, c'est bien la plateforme de création de flux de travail, c'est ça?
Ouais, un outil no-code ou low-code pour connecter des applications entre elles. Et le système de Mistral peut s'y configurer hyper vite, en moins de 30 minutes.
D'accord. Et comment ça marche en pratique, ce filtrage?
Le principe est redoutablement pragmatique. Au lieu d'envoyer absolument tous les documents traités par l'IA à un humain pour une relecture hyper fastidieuse, le système va regarder le score de confiance de chaque donnée extraite.
Je vois. Donc c'est un peu comme... c'est comme un vigile super expérimenté à l'entrée d'un club très exclusif.
J'aime bien tes analogies aujourd'hui, vas-y.
Eh bien, le vigile voit arriver les habitués et disons que le système lit l'adresse de l'entreprise ou le nom du fournisseur avec 99% de certitude.
Ok.
Là, le vigile les laisse passer. Aucune friction. L'automatisation suit son cours. Direct vers la compta. Par contre, si quelqu'un présente une carte d'identité un peu floue, disons un numéro d'IBAN scanné de travers ou un montant total avec une tache d'encre dessus...
Le vigile bloque.
Voilà. Le système voit que son score de confiance chute, disons, à 75%. Il met ce champ précis en attente et il demande à un opérateur humain de regarder uniquement cette donnée spécifique.
C'est une analogie parfaite. Ça permet de garder une fluidité maximale. Tu traites 90% de ta paperasse en quelques secondes, tout en concentrant le temps humain, qui est super précieux, uniquement sur les zones de doute.
C'est génial sur le principe, mais... Techniquement parlant, puisque l'article mentionne N8N pour créer ces flux automatisés, est-ce que c'est si simple à brancher? Genre, tu cliques sur un bouton Mistral et la magie opère.
Ah, attention! C'est là qu'il y a un piège d'intégration majeur.
Ah, je m'en doutais.
La communauté technique a très vite remonté un écueil qu'il faut absolument anticiper. Dans NNTN, il existe un nœud natif, c'est-à-dire un composant préfabriqué avec le logo Mistral AI dessus.
Ok, donc le réflexe naturel de tout le monde, c'est de glisser-déposer ce nœud pour faire son extraction, non?
Exactement. Et le problème?
Ça ne marche pas.
Ça marche, mais ça ne fait que de l'extraction de texte brut, super basique.
Oh, l'arnaque!
Ouais, ce nœud natif ignore totalement les fonctions avancées qui font justement l'intérêt d'OCR4R. Adieu les bounding boxes, adieu les scores de confiance.
Ah oui, c'est dommage. Donc comment on fait pour récupérer le plan de montage et le vigile là?
Pour débloquer ces super pouvoirs spatiaux, il faut ignorer l'outil basique de NINN et utiliser un composant beaucoup plus générique, un nœud de requête HTTP.
D'accord.
Il faut parler directement à l'API de Mistral, la version V1 OKR, avec le modèle Mistral OKR 4.0, et surtout lui demander explicitement d'inclure les blocs structurels avec un paramètre spécifique.
D'accord, donc il faut quand même mettre un peu les mains dans le cambouis technique.
Un peu, ouais. D'autant plus qu'il y a une subtilité cruciale avec cette API. Parfois, quand tu lui envoies un très gros document, elle ne te renvoie pas le texte instantanément.
Ah bon ? Elle fait quoi ?
Elle te renvoie ce qu'on appelle une URL signée. C'est une sorte de lien sécurisé temporaire.
Ah, c'est comme un ticket de vestiaire. Tu donnes ton gros manteau, on ne te le rend pas de suite, on te donne un petit ticket pour aller le chercher plus tard.
Mais exactement. Sauf que si ton flux automatisé dans N8 n'est pas conçu pour lire ce fameux ticket, attendre quelques secondes, puis faire une nouvelle requête pour aller télécharger le résultat final à cette adresse...
Tout s'effondre.
Tout ton processus s'effondre. Le système s'arrête en attendant un résultat qui ne viendra jamais sous la forme qu'il espérait.
Ah ouais, c'est le genre de détail architectural bête, mais qui fait la différence entre un prototype de labo sympa et une vraie solution d'entreprise robuste.
Totalement. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant.
C'est très clair. Bon, il faut concevoir son flux pour gérer ses allers-retours asynchrones, mais sachant que la technique fonctionne, une fois qu'on a contourné ces pièges, j'aimerais qu'on parle d'un sujet tout aussi sensible.
L'argent.
L'économie, ouais, hein. Et la stratégie d'entreprise. Est-ce que ça vaut le coup financièrement de confier ces contrats à cette API ?
Eh bien, les chiffres rapportés dans l'article sont très, très agressifs. Le coût de base de Mistral OCR 4 est fixé à 4 dollars pour 1000 pages traitées.
4 dollars les 1000 pages, ok.
Et si l'entreprise n'est pas pressée à la seconde près et qu'elle utilise le mode de traitement par lot, le mode batch, on tombe à 2 dollars pour 1000 pages.
C'est rien du tout. Et il y a aussi ce mode plus avancé dont j'ai entendu parler, le mode document AI, c'est ça ?
Oui, ça c'est quand tu demandes directement à l'API de te sortir une extraction JSON basée sur un schéma hyper précis que tu as défini.
Et celui-là, il coûte combien ?
5 dollars. Alors oui, factuellement, c'est le double du prix de la version précédente, l'OCR 3.
Ok, c'est le double, mais bon.
Mais si on élargit la focale au marché global, face à un AWS d'Extract, par exemple, qui navigue autour de 65 dollars les 1000 pages.
65 dollars chez Amazon.
Contre 4 ou 5 chez Mistral.
Ouais.
Ou même Google et Azure qui sont aux alentours de 10 dollars. C'est une fraction du prix.
Ah ouais, l'avantage concurrentiel sur le prix est juste indéniable. Mais bon, au-delà du simple tarif, il y a une dimension stratégique qui revient en boucle dans l'écosystème européen et surtout autour de Mistral.
La souveraineté.
Ah, le grand mot est lâché. La fameuse souveraineté. L'éditeur propose une option radicale, c'est de déployer le modèle soi-même, sur ses propres serveurs, via un conteneur unique.
L'auto-hébergement.
Mais qu'est-ce que ça implique réellement ? Est-ce que le simple fait que Mistral soit une boîte française, couplée à ce conteneur, ça offre un jour de bouclier magique pour le RGPD ? Parce que franchement, j'entends souvent des entreprises dire « Ah mais c'est français, donc c'est conforme ».
Ouais, alors ça c'est un raccourci hyper dangereux. Et il est vraiment vital de nuancer cet argument souverainiste qui est souvent survendu par la presse.
Ah, explique-nous.
Il est frappant de constater que dans ses annonces officielles pour cette sortie, Mistral ne fait aucune mention explicite au sigle RGPD.
Vraiment ? Aucune ?
Aucune. La conformité réglementaire, c'est pas un tampon magique que tu obtiens par simple domiciliation géographique.
C'est clair.
De plus, les géants américains ne restent pas inactifs du tout. Microsoft, par exemple, pousse très fort son initiative EU Data Boundary.
C'est quoi ça ? Une frontière de données européennes ?
C'est ça. Ça garantit que les données de leurs clients européens sont stockées et traitées physiquement en Europe. Et ça, ça réduit considérablement l'écart réglementaire apparent avec les acteurs locaux comme Mistral.
D'accord. Mais alors, pourquoi une boîte irait s'embêter à auto-héberger en conteneur Mistral ? Parce que ça demande des compétences en ingénierie interne assez lourdes, non ?
Ah oui, c'est pas pour tout le monde.
Donc si on peut juste cocher une petite case Europe chez un fournisseur cloud classique comme Microsoft, quel est le vrai pourquoi de cette stratégie d'auto-hébergement?
C'est une question de gestion des risques, mais à un niveau beaucoup plus profond. Opter pour un contrat cloud classique, même avec des clauses européennes blindées, c'est choisir d'être, ce que j'appelle, suffisamment conforme.
Ok, on fait confiance au papier, quoi.
Voilà, on s'appuie sur la promesse contractuelle du fournisseur. Mais auto-héberger le container Mistral sur des serveurs totalement déconnectés d'Internet, c'est ce qu'on appelle le air gapping.
Le air gapping. Donc les documents ne quittent physiquement jamais les murs de l'entreprise.
Jamais. Pas de câble vers l'extérieur. Et pour des secteurs soumis au secret industriel ou qui gèrent des brevets ultra sensibles.
Ou le ministère de la Défense.
Exactement. Pour eux, la promesse contractuelle d'un cloud, ça ne suffit pas. L'auto-hébergement permet de prouver techniquement, lors d'un audit strict, que la fuite d'informations vers l'extérieur est physiquement impossible.
Ah oui, c'est imparable.
Ce débat dépasse la simple théorie, hein, parce que là, on arrive à un point de bascule hyper important. Les sanctions financières draconiennes de l'AI Act européen entrent en vigueur le 2 août 2026.
Le 2 août 2026. Mais c'est demain.
C'est le mois prochain. Donc, on comprend pourquoi les directeurs de la conformité cherchent des solutions vraiment bétonnées.
Ouais, ça se tient. Mais justement, avant qu'un décideur qui analyse cette technologie ne tranche pour licencier la moitié de son service achat et tout confier aveuglément à Mistral, il faut absolument qu'on parle des limites.
La fameuse douche froide.
Oui, la douche froide, Lai, elle est nécessaire. Parce que si on regarde les performances brutes mises en avant, elles semblent excellentes, hein. On parle d'un taux de préférence de 72% lors d'évaluation à l'aveugle face aux concurrents,
ouais,
et d'un score très élevé de 85,20 sur le standard Holm-SCR Benchmilt. Mais attends, Holm-SCR Benchmilt, c'est quoi exactement? C'est reconnu dans le milieu?
Oui, c'est un banc d'essai très robuste dans l'industrie. Il a été conçu spécifiquement pour évaluer la capacité d'un modèle à extraire du texte de PDF particulièrement difficile, complexe ou mal formaté.
Ok, donc le score de 85 est pertinent.
Très pertinent, oui.
Le problème, et tu vas me dire si je me trompe, c'est que ces chiffres, aussi bons soient-ils sur ce banc d'essai, ce sont des chiffres annoncés par Mistral eux-mêmes.
Ah ben oui.
Il n'y a pas encore le recul de laboratoires tiers indépendants pour certifier ses performances sur des échantillons donnés totalement neutres, si.
Non, c'est encore trop frais.
Et puis, au-delà des scores de labo, il y a la réalité physique du document. L'article confirme que l'écriture manuscrite reste un point de friction énorme.
Oula, oui.
Je veux dire, un médecin qui écrit sur une ordonnance avec la meilleure IA du monde, ça reste souvent indéchiffrable. Et si le document scanné est de travers ou rempli de bruit visuel, j'imagine que l'API ne va pas faire du miracle sans un lourd pré-traitement de l'image en amont, non?
C'est ça. Ce sont des contraintes classiques de l'OCR. Mais attention, il y a un risque beaucoup plus profond inhérent à l'architecture même de ce nouveau modèle. Et c'est fondamental à comprendre.
Vas-y.
Contrairement aux anciens logiciels qui étaient basés sur des règles strictes d'analyse de pixels, Mistral OCR 4 repose sur la technologie des LLM, les grands modèles de langage.
Comme ChatGPT en gros.
Voilà.
Et ça change tout au comportement de la machine quand elle se trompe, j'imagine?
Absolument tout. Pense à un vieil OCR. S'il ne reconnaît pas un mot parce qu'il y a une grosse tache de café dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il va planter ou il va produire une suite de symboles totalement illisibles du genre @h%?
C'est très frustrant, certes.
C'est frustrant, mais c'est honnête. L'erreur est visible au premier coup d'œil, tu sais qu'il y a un problème.
Alors qu'un grand modèle de langage, c'est fondamentalement entraîné pour générer du texte fluide, non?
Exactement. C'est entraîné pour prédire la suite logique et maintenir le sens. Du coup, face à une zone illisible, le LLM a psychologiquement horreur du vide. Il peut tenter de deviner le mot manquant et produire une hallucination qui a l'air très très crédible.
Oh mon Dieu.
Ou pire encore, s'il n'arrive vraiment pas à lire une ligne complexe d'un contrat, il peut tout simplement décider de l'ignorer.
Et il recoule le texte autour pour que la phrase garde une cohérence grammaticale.
C'est exactement ça.
L'omission silencieuse. C'est glaçant quand on y pense.
Ah oui, totalement.
Imagine une clause de rupture de contrat qui était escamotée silencieusement, juste parce que la machine n'était pas sûre d'elle et a préféré faire propre dans son fichier JSON.
Dans le monde légal aux financiers, c'est un risque totalement inacceptable.
Bien sûr.
Et c'est pour cela que Mistral, eux-mêmes, très lucidement, déconseille l'usage de leur modèle de manière autonome pour des diagnostics médicaux, des décisions judiciaires ou des processus financiers critiques.
Oui, il faut le rappeler. Ce modèle est un outil de compréhension spatiale. Ce n'est pas un arbitre et ça n'est pas un décideur.
Tout à fait.
D'où la nécessité vitale des vérifications croisées. Enfin, je veux dire, si on automatise l'extraction d'une facture, on ne se contente pas de faire lire le total par la machine.
Surtout pas.
On fait lire toutes les lignes individuelles, quantité, prix unitaire, puis on demande à un autre système classique de recalculer la somme mathématiquement.
Oui.
Et si le résultat mathématique diffère du total lu par l'IA?
On sait qu'il y a eu une omission ou une hallucination.
Exactement. On utilise la logique métier pour vérifier le modèle de langage, en fait.
C'est ça. Et d'ailleurs, cela nous ramène en boucle à notre concept de tout à l'heure, le confidence gating.
Ah, le vigile IA.
Le fameux vigile. Face à cette propension des LLM à pouvoir omettre du texte pour faire joli, forcer la machine à exprimer mathématiquement son niveau de doute, mot par mot.
C'est le seul rempart fiable pour garder le contrôle de l'automatisation.
C'est la clé de voûte du système.
Eh bien, si on tente de synthétiser tout ce qu'on vient d'explorer aujourd'hui, Mistral OCR 4 se présente vraiment comme une avancée colossale. Ce n'est pas juste un lecteur bête, c'est un vrai cartographe du document.
C'est un changement de paradigme.
Et son prix super agressif, sa capacité à structurer spatialement des infos complexes, et cette possibilité de l'enfermer dans un bunker sur ses propres serveurs, ça en fait un candidat redoutable face aux géants américains.
Indéniablement.
Mais la conclusion qui s'impose à travers toutes ces analyses, elle est résolument pragmatique, non?
Bah oui, il n'y a pas de solution miracle prête à l'emploi. Avant d'orchestrer un déploiement massif qui impacterait toute la chaîne logistique ou la compta d'une entreprise, la seule voie valable, c'est l'empirisme.
C'est-à-dire tester soi-même.
Prendre un échantillon de ses pires documents, les plus tordus, les plus mal scannés, les faire passer dans l'API, gérer correctement les subtilités d'intégration technique dans Inuiten.
Et mesurer sans aucune complaisance le taux d'erreur et d'omission.
Exactement. Ne pas céder aux sirènes du marketing, en somme.
Mais tu sais, toute cette exploration, ça soulève en moi une réflexion un peu plus, disons, philosophique sur la trajectoire technologique que l'on emprunte.
Oh ouais, je t'écoute.
L'ensemble des travaux et des innovations qu'on vient de décortiquer se concentrent sur l'optimisation extrême d'un processus IA, comment extraire des données qui sont enfermées dans des mises en page de PDF ou de fichiers Word.
C'est le but de l'OCR, oui.
Oui, mais on développe des architectures neuronales gigantesques, on calcule des probabilités complexes sur des grilles spatiales, on déploie des vigiles algorithmiques, tout ça pour réussir à lire un format page.
Un format pensé par des humains pour être lu par des yeux humains.
C'est ça, hein? C'est un paradoxe fou, hein, de la transition numérique.
C'est vrai quand on y pense.
N'est-ce pas? Si l'intelligence artificielle la plus pointue de 2026 doit transpirer autant et calculer des scores de confiance mathématiques justes pour déchiffrer un malheureux tableau croisé sur une facture scannée, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est le concept même de document qui est en train de devenir totalement obsolète?
C'est une excellente question.
L'horizon, l'étape d'après, ce n'est peut-être pas de construire des IA cartographes toujours plus puissantes pour déchiffrer nos vieux PDF pleins de taches de café. C'est peut-être un basculement vers un écosystème où les entreprises cesseront purement et simplement de générer des interfaces visuelles pour communiquer entre elles.
Du machine à machine pur.
Un monde de flux de données brutes, ouais, où l'idée même de dessiner une page virtuelle avec des marges, des entêtes et des jolies polices de caractères finira par prendre la poussière dans un musée des curiosités informatiques.
Ce serait la vraie fin de la paperasse.
Quelque chose de fascinant à méditer la prochaine fois qu'il faudra copier-coller ce maudit tableau, non?
Ah ça, c'est sûr. Je n'y penserai plus de la même façon.